Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Chers amis du bonheur, nous sommes à Paris, c'est Causer Kilti qui débarque chez vous. Causer Kilti est au Récollet, à quelques encablures de la gare de l'Est. Mais voilà, ça commence par une imprudence. Je donne l'adresse de mon invité. Mais tout ça doit être fort peu pour Daniel Laferrière. Déjà, monsieur est immortel. Et son dernier livre, en date, Vers d'autres rives, met en espace un Dany éperdument Laferrière. Sacré livre écrit à la main et au dessin. Bonsoir, Daniel Laferrière.
Bonsoir.
Vers d'autres rives, Dany. Est-ce un livre pour ne pas en faire un? Un peu comme si ton projet réel serait de faire un grand dessin sur plus que 50 pages.
Oui, mais c'est 100 pages, mais j'avais déjà fait un livre précédent de 320 pages. Non, je pense pas que c'est pas un livre pour ne pas en faire un. Au contraire, c'est deux livres. Il y a du texte et des dessins, j'allais dire animés par la couleur. Et non, c'est l'impression que j'ai, c'est de faire deux livres dans un seul, ce que les enfants savent bien faire, écrire et dessiner en même temps.
J'ai l'impression que tu as toujours aimé dessiner. Moi, quand j'ai eu 15 ans, tu m'as dédicacé un livre, là tu te rappelles pas, Livre en folie, tu as fait un dessin.
Oui, mais c'est toujours le même que je fais, soit une tasse de café, une fleur ou une petite maison. Mais cette fois-ci, j'ai un peu traversé une frontière. Et j'ai compris par hasard que je pouvais, en regardant attentivement et en rêvant attentivement de nouvelles formes, et créer des images et colorer et ce qui me calme. Et dessiner m'apporte une grande sérénité.
Tu penses que dans un arrière-monde, tu serais dessinateur ou peintre?
Ah non, pas du tout, je pense pas à ça. Et je ne crois pas être dessinateur ni peintre. Je fais des livres avec des dessins. C'est tout simple, et c'est comme un enfant. Et il ne pense à rien quand il fait cela. Il pense qu'il est vivant. C'est cette impression qu'on a. Et ce que j'aime surtout, c'est la main. Parce que j'avais délaissé la main il y a quelques décennies pour la machine à écrire. J'en ai fait un éloge permanent de cette Remington 22 qui circule dans mes livres à la fois comme personnage et comme outil de travail. Et donc pour moi, c'était important de signaler le retour à la main, d'autant plus que les appareils électroniques ont pris une place formidable, extravagante même parfois, et dans notre univers mental et intellectuel. Je voulais re-signaler que la main n'est pas pour rien dans la sensibilité et humaine, et qu'elle a structuré un peu notre sensibilité au fil des siècles, des millénaires, depuis les papyrus, depuis même gravé dans le marbre, la main était là, et on délaisse cet outil-là qui risque de se rouiller pour rien, alors qu'il peut encore servir.
Mmh. Alors, Vers d'autres rives, justement, est écrit à la main, mais est-ce que l'exercice ne te paraît pas besogneux?
Ah non, c'est un plaisir. Ah non, on est pris uniquement avec des images dans la tête quand on écrit, et simplement avec les lettres de l'alphabet et le texte écrit, mais avec la main on ajoute la couleur, il y a beaucoup de surprises.
Alors tu fais tout un éloge du monde agraire, du monde végétal, du monde animal, dans Vers d'autres rives. Tu es quoi dans ton enfance quand tu parles de ces mondes-là? Mais est-ce que ces mondes-là, ces amours agraires, ont laissé des traces dans ton hygiène de création?
Ah mais sûrement, d'ailleurs ça me calme, comme je l'ai dit, c'est très serein, et c'est le monde de l'enfance aussi, c'est un monde naturel qui va bien avec la main. Et c'est mettre la main à la pâte, j'ai l'impression de former des choses, de sculpter et un univers, et de toucher aussi. La main garde une mémoire des choses, et c'est l'un des premiers outils qui nous a permis d'appréhender le monde, de le toucher, de le mesurer, et si l'on peut dire, donc, et puis aussi la main garde les effluves du monde, hein, les odeurs, les couleurs, les saveurs, les épices, et aussi les sensibilités, les émotions, la douceur, le chaud, le froid, la qualité de la peau humaine, et le rugueux. La main a une mémoire, une très longue mémoire.
Vers d'autres rives, c'est mon appréciation de lecteur. C'est un livre de fête, c'est un livre de gaieté. Par contre, le cyclone Flora intervient en 63. Comme quoi, Dany, un écrivain qui parle d'Haïti a toujours de l'horreur dans son encre.
Ah, mais le cyclone, c'était pas de l'horreur pour moi, enfant. Et c'était un chaos, et de ce chaos, il y a une joie. C'est-à-dire, les enfants avaient la possibilité de sortir et d'aller marcher un peu partout, soi-disant pour voir les dégâts et du cyclone, de se baigner sous la pluie, et les adultes étaient occupés. Et c'est un autre monde. Et nous, on était presque joyeux, heureux. Le monde de l'ordre avait disparu un moment, puisque les adultes étaient dans le désordre. Et les maisons avaient perdu leur toit, des gens étaient morts, et des arbres déracinés, des lits, parfois même, flottaient sur les eaux, et dans les rues de Petit-Gouave. Donc on voyait des choses qui n'étaient pas usitées, et qu'on ne voyait pas toujours, ce qui crée une sorte de fête, une sorte de chaos, quelque chose de qui n'est pas courant, et cette surprise-là a fait notre joie. Donc c'est pas du tout et dramatique, bien sûr, pour la réalité des adultes, de nos parents, c'était quelque chose de dramatique, parce que toutes leurs économies avaient passé, tout ce qu'ils avaient créé par l'énergie dépensée, par le travail, ils voyaient ça s'en aller comme ça sur les flots, emportés par le vent. Et c'est autre chose, la perception de l'adulte et la perception de l'enfant d'une situation de désordre.
Vers d'autres à son côté ludique, on va dire, tu n'as pas des fourmis qui ne sont pas syndiquées. J'ai adoré cette formule, ça m'a fait beaucoup rire pendant un temps. Mais est-ce que toi, tu rêverais d'un syndicat d'écrivains, Daniela Ferrière?
Ah non, syndicat, je pense qu'il y en a, l'Union des écrivains au Québec, mais je me tiens toujours loin de tout cela. Je crois que pour moi, la littérature est un espace qui ne tolère aucune police, quel qu'il soit, même pour son bien. Parce que écrire, c'est acheter du temps. C'est acheter du temps. C'est pour ça qu'il y a des résidences d'auteurs pour nous restituer ce temps-là, et quand on ne peut pas l'acheter. Tous les écrivains ne rêvent que d'une chose. On rêve d'un mois et demi vers la fin pour pouvoir corriger calmement son livre, sans penser au loyer, sans penser à l'argent, sans penser à en donner à sa maman, enfin, et sans penser à toutes sortes de choses pratiques comme ça. Donc écrire, c'est acheter du temps. Si jamais nos livres peuvent nous aider à faire ça, il faudrait pas qu'on nous exploite. Donc là, un syndicat est bien vu. Sauf que ce n'est pas dans le métier, naturellement.
Alors justement, Dany, pour rester dans ce registre-là, dans Vers d'autres rives, tu écris que l'argent est un bon moteur pour traverser l'autoroute de la vie. Je voudrais te demander, qu'est-ce que l'argent dans la vie d'un écrivain typique?
Oh, l'argent, c'est surtout dans ma mémoire. J'ai toujours vu ma mère en train de compter ses sous le matin. Elle faisait chaque matin son budget. Budget de la journée, comme l'État fait le budget annuel ou quinquennal, et ma mère fait son budget de la journée, et elle refait ses chiffres à la baisse parce que elle n'avait pas assez de fonds pour ce qu'elle voulait faire dans la journée, c'est-à-dire envoyer pour acheter des aliments et au marché. C'est pas un gros budget, mais elle doit faire son budget. Elle doit garder un peu pour demain aussi, et tout en pensant que une surprise est toujours possible. Enfin, j'ai toujours vu ma mère se confronter avec l'argent. C'est pour ça que je garde un grand respect pour l'argent, parce que l'argent a occupé sa vie, et c'était la chose qui permettait de s'occuper de nous. Et donc, je n'ai pas du tout de mépris pour l'argent. Seulement, je ne voudrais pas qu'il rentre trop souvent dans la matière même de mon travail, qui est la rêverie. Et quant à la misère, je n'ai aucune mélancolie, aucune et pour la misère, elle n'a pas été gentille avec moi, je n'ai pas à me rappeler d'elle.
Alors, Da est bien entendu d'un verre d'eau trive, mais on voit Da qui ne sert pas de café au Makout. Comme quoi, on résistait comme on pouvait.
Ah ben, servir du café, c'est le lien fondamental. C'est le triomphe d'une certaine culture. Et c'est reconnaître l'autre. Et c'est l'accepter dans votre univers. C'est partager ce qu'on a de mieux. Vous savez, le café, c'est pas uniquement dans la petite ville de Petit Gouave, près de la galerie de ma grand-mère. C'est la boisson, la seule, je crois, quand il est très bien, et le goût et l'odeur se confondent. Il y a d'autres boissons qui sont extraordinaires, dont l'odeur est extraordinaire, mais le goût moins bien, et d'autres dont le goût est meilleur que l'odeur. Mais quand on boit un très bon café, et on a l'impression que son odeur va bien avec le goût. C'est comme ça que ça devrait être un café. Et donc c'est important, au point que en Europe on a un peu traqué le café, parce qu'on disait que ça donnait de l'esprit et ça créait un esprit de résistance, un esprit de et donc ça permettait aux gens, aux intellectuels, et de réfléchir. Et puis on doit remarquer que c'est la seule boisson qui porte le nom de l'endroit où on sert. Donc on va prendre un café dans un café pour montrer sa grande puissance. Donc le fait que ma grand-mère refusait d'offrir le café au Makout, c'était carrément une civilisation qui se refusait à une brutalité.
David Peters est également dans Vers d'autres rives d'Anina Ferrière. La peinture, lit-on, devenait presque avec lui aussi populaire que le football. Ça, c'est vrai?
Tout à fait. Surtout quand on voit, et pas avec lui seulement, non, avec l'arrivée de David Peters, oui, tout à fait. Et quand on voit la place de la peinture en Europe, c'est soit des croûtes qu'on voit devant l'église Notre-Dame ou sur les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés, des croûtes qui se définissent comme croûtes. Il n'y a aucune ambition. On refait des petits cadres et on fait des petits personnages un peu comme ça, et de bandes dessinées. C'est des poodles, j'ai oublié le nom. Mais on voit pas d'ambition, et parce que la peinture, la vraie, ça se passe dans les galeries d'art, dans les musées, dans les écoles d'art où on apprend, et c'est ainsi que la peinture s'est embourgeoisée totalement en Europe. On voit des peintres, mais on voit pas la peinture. La peinture n'est pas à la portée, elle n'est pas dans la rue, elle n'est pas, on peut pas et la croiser. Et ce qui fait que, par exemple, à Montréal, quand j'étais arrivé, je voyais dans les chambres des étudiants, il y avait toujours des posters, toujours les mêmes, naturellement, Che Guevara, mais il y avait que des posters. Et j'allais dans les familles plus ou moins économiquement, et là encore, c'était des posters, et c'était des photos de famille, et il fallait monter plus haut pour voir des peintures dans les salons. Des peintures à l'huile, alors qu'en Haïti, vous allez chez n'importe qui, vous en trouvez. La cuisinière de ma mère, et ses murs sont couverts de toiles. J'ai demandé, mais vous les avez achetées? Elle dit, non, j'ai pas d'argent pour ça, je suis trop pauvre, je les fais moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la peinture était devenue aussi populaire que le football. Et un étranger qui arrive à Port-au-Prince et qui voit sur tous les murs, près des hôtels, et, ou même près du marché, et autant de tableaux, et même si c'est répétitif, même s'il faut prendre son temps pour en choisir, mais la plupart, quand ils reviennent chez eux à Paris, à New York, à Montréal ou à Berlin, et qu'ils l'exposent dans leur salon, les gens s'arrêtent pour regarder. Ils trouvent qu'il y a une sorte de joie primitive et qui les enchante.
Ouais, mais sur ça, je voudrais justement te demander, est-ce que dès qu'il y a peinture, il y a œuvre d'art?
Ah non, pas forcément. Mais un peuple peut être un peuple de peintres, selon les dires de Malraux. Et il n'y a pas œuvre d'art, mais Malraux a raconté qu'il avait fait les maisons de la culture en France pour que des paysans français ne puissent pas rigoler en voyant un tableau de Georges Braque. Et quand il est arrivé en Haïti, il a dit à peu près, et devant l'invention de la couleur en Haïti, alors que la sculpture semblait être reléguée à l'Afrique, et les de tous les Caraïbéens, Haïti a reconnu la couleur. Et c'est à Georges Braque de ne pas rigoler. Parce qu'il avait vu les tableaux de Saint-Soleil à Soissons-la-Montagne, il avait rencontré des peintres paysans qui ne savaient pas lire. Et c'est le vieux rêve de l'Europe, c'est d'entendre la voix de ceux qui n'ont pas de voix, d'entendre, de connaître les émotions profondes et subtiles et des paysans, des gens qui ne s'expriment pas ou s'expriment différemment, et des gens qu'on appelle au Québec des taiseux, des gens qui se taisent. Et là, brusquement, en Haïti, on a un peuple paysan presque de bavard, par la peinture.
Qui toute la vie, moi, mal y couché, mal après mourir.
Il y a ta mémoire littéraire, Daniela Ferrière. Calboire est là. Mais Calboire, tu nous dis, il ne parlait que pour lui-même. Et c'est ça qui t'a rapproché de lui.
Bon, dans une époque où tout le monde était au manifeste, à la déclaration politique, à la déclaration sur le vaudou, et brusquement, il y a un poète qui arrive, qui parle de ses désirs sexuels, qui parle de son mal de tête, et qui dit qu'il avait pris des aspirines, et on comprend bien que le désir était si furieux que ça lui a donné mal à la tête, et qui parle de Dolores, qui parle de Loulouse, et qui parle de nom de femme, et qui brusquement, comme ça, sans crier gare, il parle aussi de la mort. Les cloches du Sacré-Cœur un jour sonneront mêmement pour moi. On se souvient de cet adverbe mêmement qui est resté dans la littérature haïtienne.
Daniela Ferrière est un académicien. Daniela Ferrière est un immortel. Daniela Ferrière voyage beaucoup. Il y a quelques heures, tu étais à Rome. Mais tu écris, la célébrité est une valeur américaine. Elle consiste à déplacer la direction du regard. Du coup, lorsqu'on est célèbre, comment regarde-t-on la célébrité?
Ah, comment on est regardé? Quand je dis la direction du regard, c'est cela. C'est-à-dire qu'au lieu de vous regarder humainement, on regarde votre valeur ajoutée. Et le fait que vous soyez plus connu. On se demande comment vous approcher, comment vous toucher, au lieu de se demander comment vous lire. L'individu lui-même peut ne pas être touché par cela et continuer à vivre comme il entend. Et d'ailleurs, les gens très vite apprennent cela et ont une attitude plus naturelle avec lui. Moi, je suis toujours impressionné par le fait qu'on m'invite dans un pays étranger et qu'on paie mon hôtel et qu'on me reçoit à bras ouverts. Et je trouve toujours ça miraculeux.
On revient à Da, si tu permets, Daniela Ferrière, cette grand-mère magnanime qui traverse toute ton œuvre. Elle dit « La surprise fait bouger le monde et crée ainsi la vie ». Comment tu as appliqué ce principe dans ta carrière d'écrivain?
C'est consubstantiel à moi, c'est-à-dire j'ai été élevé, c'est elle qui a structuré ma sensibilité, donc j'ai été élevé avec cette idée de la surprise. La surprise pour ma grand-mère, c'est tout simplement, on n'a pas d'argent et brusquement quelqu'un arrive et sans raison et met de l'argent sur la jupe ou bien la grande poche de ma grand-mère. En lui disant, bon, je me souviens que tu avais aidé mon frère il y a quelques années, et là je viens payer ma dette. Mais c'était
rien
courant. C'était courant, et des gens passaient devant la maison et disent, Da, et j'ai eu assez de poissons, et le bateau vient d'arriver, je t'en ai réservé 3, je vais te les donner. J'ai 3 beaux pour 3. C'est-à-dire, c'est toujours en réparation de tout ce qu'elle faisait. C'est pour ça qu'elle disait des fois, à un gendarme qui avait arrêté un citoyen, comme on disait à l'époque, et elle lui disait « Mais je vous ai vu passer ensemble, il y a à peine 30 ans, vous étiez la main dans la main, vous alliez à l'école, comment peux-tu te conduire comme ça avec lui ?» Et l'autre dit « Mais non, il a commis un acte, est-ce qu'il a tué quelqu'un ?» Non. Et qu'est-ce qu'il a commis ? Il a volé un pauvre ? Non. Eh bien, dites au capitaine que tu ne l'as pas vu.
Tu appellerais ça un communisme à la Da?
Non, ça n'a pas d'idéologie. C'est la manière de vivre, tout simplement.
Dans ce dernier livre qui sera, mais très prochainement, en librairie d'Anina Ferrière, tu parles de tes filles et de ta femme. Je me rappelle qu'une fois, ça fait des années, tu m'as dit, il y a une orgie de mari dans ma vie. Où sont ces femmes-là de ta vie?
Oui. Ben oui, la plupart sont mortes. Et il ne reste qu'une des sœurs de ma mère. Et ma mère, mes tantes, Raymond, René, Gilberte, et elles sont mortes, mais elles existent aussi, elles se sont, j'espère, transformées, et elles sont dans l'espace, elles sont dans l'air, et il m'arrive de croire parfois que si l'air sent bon encore, ce n'est pas à cause des fleurs uniquement.
Mais il t'arrive de croire en Dieu, de temps en temps, au carrefour d'une mauvaise rue, d'une mauvaise passe. Est-ce que Dieu, des fois, il se révèle à toi ou il n'est pas dans ton programme?
Oh, ben, enfin, j'aurais honte de croire en Dieu parce que je suis dans une mauvaise passe. mais, non, je pense pas que j'ai besoin de croire en Dieu. J'en ai parlé une fois avec ma mère qui est plus que croyante et ma grand-mère aussi, mais pas toutes mes tantes, mais je crois que j'ai été sauvé de la piété par la piété de ces femmes. Je crois que le fait qu'elles ont tant cru, qu'elles ont intercédé, si l'on peut dire, auprès de Dieu pour moi. Il y a une sorte de réflexion bouddhiste qui dit que la piété, la religiosité, c'est une forme de punition. Et les gens qui ont l'âme vraiment pure n'ont pas besoin de quoi.
L'histoire du grand roman américain, tu es toujours là-dedans, tu penses toujours que tu ne l'as pas encore écrit, ce grand roman américain qui t'a conduit aux États-Unis, qui t'a conduit un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'il te hante, ce grand roman américain à la Daniela Ferrière?
C'est Borges qui raconte ça dans une de ses... Je pense que c'était même pas une nouvelle, c'était un extrait d'un texte à propos, je crois, du Simurgre, qui était le grand oiseau éternel. Et les oiseaux sont partis d'une région pour aller à la recherche du Simurgre dont on leur a dit qu'il était quelque part à l'autre bout du monde. Et ils sont partis, et ça faisait des jours, des mois, des années, et qu'ils volaient vers le Simurgre qui se terrait à l'autre bout du monde. Il y a un petit oiseau finalement qui en a eu marre de ce voyage un peu monotone, et il s'est déplacé, il a quitté le groupe, et il est parti dans une autre direction. Et à un moment donné, il s'est retourné pour voir une dernière fois le groupe et il a vu que c'était la manière de se placer dans le ciel qui faisait de ce groupe un oiseau et que c'était eux, les Simurgues. Et ce roman américain, ce grand roman américain, c'est pas un roman que je vais chercher, comme les oiseaux allaient chercher le Simurgue, c'est l'ensemble des livres que j'ai écrits qui j'espère, et mis bout à bout, et faisant un seul livre, peut-être en plusieurs tomes. Et je crois que le grand roman américain ne peut venir que d'en bas. Ça ne peut pas être du tout un roman des biceps, des muscles. Ça ne peut pas être une métaphore de l'Amérique puissante. Un grand roman de 3000 pages écrit par... Ça peut être un grand livre de 60 pages aussi. Donc toute cette idée de la gonflette que les Américains ont mis en place pour parler de grand roman comme d'un gros roman en fait. Et je crois qu'ils peuvent pas, parce que la question n'est pas de la dimension, c'est des espaces différents que l'histoire de ce roman traverse, des temps différents, des douleurs différentes, des mouvements différents. Norman Mailer ne saura jamais ce qu'est un réfugié, ce qu'est un exilé, ce qu'est un enfant d'une petite ville de province, ce qu'est un enfant qui a vécu une grande partie de sa vie sous la dictature et qui a travaillé pendant 8 ans dans les usines à Montréal, qui a connu le racisme, qui a connu le bonheur d'être aussi dans une ville nord-américaine, qui a connu la neige éternelle, l'hiver et l'été éternel en Haïti, qui a connu des grands-mères, qui a connu le voyage même en Europe, qui a connu le mouvement et l'immobilité pour finir par s'asseoir dans un fauteuil numéro 2 de l'Académie française. Si on n'a pas ça, on ne peut pas écrire le grand roman américain. C'est l'histoire de gens qui n'ont pas eu et qui ont fini par avoir quelque chose, pas devenir quelque chose, pas être quelque chose, mais par avoir, et qui ont travaillé là-dessus. Ce n'est pas un projet, c'est une vie.
C'est ça le grand roman américain. Mais dans ce roman, il y a une transaction touchante, intime. C'est un échange de sang contre de l'encre. C'est ce que tu écris dans Vers d'autres rives. C'est ça pour toi le domaine de définition de l'écrivain? C'est du sang qu'il donne pour avoir de l'encre en retour?
On est toujours dans le vieux contrat de Goethe, de Faust, avec le diable et autres. On est toujours dans cette idée que on ne peut pas être heureux sans payer quelque chose. J'espère que ce n'est pas la seule forme de vie possible. On peut faire ça sans ce fameux contrat avec le diable, sans payer de son sang. Et comme avait dit aux Romains, qu'on peut pas avoir la source et l'eau si on n'a pas payé de son sang. C'est le sang de l'homme. Ce ne sont pas des cérémonies factices. Il faut que la bête soit saignée. Il faut qu'on voit le sang. Mais je le dis là, mais j'espère que quelque part on pourra négocier l'encre contre le vin.
Tu es heureux, Daniela Ferrière? Dernière question.
Épuisé et heureux.
Voilà, mesdames et messieurs, Daniela Ferrière, depuis sa résidence, nous sommes à côté de la gare de l'Est, je n'en dirai pas plus. C'est Causer qu'il dit, pour célébrer la vie, pour célébrer Vers d'autres rives, qui est très prochainement en librairie.
De mer au premier vol, je toucherai le sol de mon petit pays.
Merci aux partenaires de Causer qu'il dit, que sont l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'OIF, la Focale, l'Institut français d'Haïti. Merci à James Guillou, le grand Manitou de la réalisation et du montage. Je vous dis, gardons bonheur. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Emile Michel, gardons bonheur. Thank you.
Mes parents m'ont